m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je viens avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie,
courtoisie.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jeanne, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Et oui, vous êtes sur Radio Courtoisie, bienvenue dans ce Restons Courtois que nous avons pré-enregistré. Nous sommes le 14 juillet, ou plutôt vous êtes en train de nous écouter, c'est le 14 juillet au soir, mais nous avons enregistré ça un peu plus tôt. Nous avons décidé de consacrer tout ce Restons Courtois à la liberté d'expression. Elle est en danger, elle est en danger de mille manières, certaines insidieuses, certaines au contraire extrêmement manifestes, chat control, l'interdiction des réseaux aux mineurs, aux moins de 16 ans, aux moins de 15 ans, et mille lois avec Aurore Berger à sa tête. Quand la loi n'est pas voter, c'est que de toute façon, elle est dans les tuyaux. On est véritablement environné de gens qui veulent que l'extrême-centre se maintienne au pouvoir, qui veulent éliminer une partie des partis du débat politique, qui veulent faire en sorte que les Français ne puissent pas faire entendre leur voix. Et c'est français, c'est européen, mais c'est vraiment français en ce sens que la France, depuis plusieurs années, a pris la tête de cette croisade contre la liberté d'expression de la manière la plus concertée possible, la plus technique possible, la plus organisée, en faisant en sorte que les grandes plateformes soient soumises à volonté française, en faisant en sorte que ceux qui dirigent ces plateformes en France soient des alliés du pouvoir, soient des proches du pouvoir. On a véritablement, avec Emmanuel Macron, le président qui a décidé que free speech is bullshit, pour le citer dans le texte et en imitant son accent, la liberté d'expression, c'est de la merde. Et voilà, il a mis en place, effectivement, cette espèce de carcan. Et il veut le pousser le plus loin possible. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir JBG. Bonjour JBG. Vous animez un compte Twitter qui est vraiment remarquable, justement consacré à cette liberté d'expression. Tout à l'heure, nous recevrons Édouard Chanot de Logim, l'Observatoire du journalisme et des médias. Nous recevrons aussi John DeLoren, un véritable lanceur d'alerte. Et nous finirons par Guylain Gridel, qui a lancé cette initiative remarquable, pris pour un député.fr ou .com, je ne me souviens plus. Et pourquoi est-ce que je le raccroche à la liberté d'expression? Parce que, justement, il y avait un débat confisqué et cette manière de lancer ce site a été une manière de faire revenir une partie des citoyens dans le débat, à cause d'ailleurs de l'étonnement que ça a suscité chez les députés, qu'on puisse prier pour eux. C'était très étonnant, ça ne ressemblait pas à un amendement, mais c'était justement une prise de parole citoyenne. Et c'est ça qui est intéressant. JBG, vous êtes rentré dans le combat pour la liberté d'expression il n'y a pas si longtemps que ça, en fait.
Alors, ça dépend. Par intermittence, on va dire, je suis un intermittent de la défense de la liberté d'expression. J'ai eu j'ai fait mes premières armes en 2009, au moment de la loi Hadopi, quand j'étais responsable de l'innovation chez TF1. Je m'étais opposé et effectivement, on m'avait refusé ma liberté d'expression puisque j'avais écrit un mail à ma députée et qui m'avait valu d'être dénoncé par le ministère de la Culture de l'époque, Christine Albanel, et de son bras droit, Christophe Tardieu, qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui en tant que secrétaire général de France Télévisions.
Vous aviez été dénoncé auprès de votre direction.
Voilà, qui m'avait dit que je ne pouvais pas écrire et même penser ce que j'avais écrit en privé. Voilà, donc effectivement, je suis un passionné des médias, je suis un passionné de la tech, et je me suis toujours buté contre un mur de la complaisance, même voire peut-être même de la corruption des idées, et qui fait que ce combat, je le mène par intermittence, parce que j'ai des sociétés dans le conseil, j'investis un petit peu dans la tech, et donc c'était il y a 6 mois, effectivement, j'ai commencé à reprendre mon bâton de pèlerin pour essayer de convaincre le plus grand nombre que ce qui était en train de se jouer. Effectivement, donc on est le 14 juillet, on a peine à penser qu'on célèbre la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment l'article 11 de la liberté d'expression. Effectivement, cette liberté d'expression, comme vous l'avez dit, est en danger réellement. On est face à une offensive qui est menée sur plusieurs fronts, là aussi on va en parler, qui est insidieuse, qui est hypocrite, qui n'est pas débattue dans les médias. Et voilà, et donc quand on essaye de faire un pas de côté, d'avoir la photographie générale de ce qui est en train de se passer, effectivement, on est dans une période charnière, très importante, et qui nécessite que, en tant que citoyen, on se mobilise pour voilà, participer au débat déjà, qu'on nous refuse, et essayer de porter une voix voilà, qui est, j'imagine, républicaine, qui est pour la liberté. Voilà.
Comment vous expliquez, merci Richard, ce refus d'obstacle vis-à-vis du débat? Comment vous expliquez que les dirigeants, les politiques s'y opposent dans une société où, a priori, on est tous Charlie, mais tous Charlie quand ça nous arrange,
en fait? Ouais, tout à fait. Alors, pour le coup, j'en ai côtoyé certains, je connais, j'essaye d'analyser leur façon de penser. J'essaie toujours de garder ma liberté, même si j'ai été à partir du lycée sur les mêmes bancs qu'eux, je pense que j'arrive à faire en sorte d'essayer de comprendre de manière un peu neutre comment ils pensent. Alors, moi je suis un enfant d'Internet, c'est-à-dire que à 17-18 ans, quand je connectais mon modem, un monde s'est ouvert devant moi, un monde des possibles, avec une utopie d'ailleurs, qui est le partage des connaissances, la liberté d'expression, etc. etc. On a vu effectivement cette révolution se démocratiser et amplifier des mouvements tels que, par exemple, le printemps arabe, des discussions, des débats qui n'avaient pas lieu dans les médias mainstream, comme sur le Brexit, comme la première élection de Donald Trump. Donc là, on est en 2016, donc il y a 10 ans. Et pour comprendre justement le logiciel politique, il faut savoir qu'ils sont persuadés d'avoir raison. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mépris de classe, d'élitisme, qui fait que si on ne vote pas pour eux, si on n'adhère pas à leurs idées, c'est qu'on aurait mal compris les choses ou qu'on aurait été désinformé. Ils expliquent le Brexit comme ça. Il suffit de reprendre des papiers de presse même dans les grands médias. Donald Trump, l'élection de Donald Trump, c'était pareil. On peut citer aussi le Covid, aussi, quand il y a eu ce refus de la vaccination obligatoire. Donc, pour eux, ce n'est pas que les gens aient du bon sens, hein, que tout à chacun ait du bon sens, c'est que forcément, ils sont désinformés. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'avait dit de manière assez très claire, il regrette parfois de ne pas avoir été assez bien compris. Donc en fait, c'est vraiment nous
qui... Le problème vient de nous et non pas de l'émetteur du
discours. Exactement. Donc ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas... en fait, c'est les politiques sont des intermédiaires, c'est pour ça qu'on est dit des représentants. Ils sont en train de lutter contre la désintermédiation qui est rendue possible par justement les réseaux sociaux et les YouTube, etc., etc. Le fait que les gens se parlent entre eux est un problème pour eux, dans leur logiciel, qu'il faut combattre. Ouais.
Le fait que les gens se parlent entre eux et aussi que brusquement apparaît une nouvelle classe de journalistes citoyens qui n'ont pas leur carte de presse, qui n'ont pas été invités au petit déjeuner du ministère ou de l'Élysée, qui ne sont pas dans les dîners en ville avec le futur candidat et qui brusquement se mettent à étudier un rapport sénatorial et à donner une analyse. Ce qu'il y a de remarquable dans le compte X que vous animez, c'est que chaque fois qu'un sort un texte de loi ou un projet de texte de loi, un rapport, vous le décryptez, vous en faites un article et il n'y a aucun filtre, voilà, aucun cabinet ministériel ne vous a aidé à comprendre, aucun groupe de pression et de défense d'intérêts privés n'a pris votre main pour vous expliquer ce que vous deviez dire. Et on sent que c'est aussi non seulement cette conversation entre les citoyens, mais aussi le fait que certaines personnes se fassent véritablement les intermédiaires entre cette loi opaque, entre ce monde technique, entre ce discours de technocrate auquel on ne comprend rien, qui est volontairement ambigu, confus, alambiqué, et au contraire l'explication très claire que vous en donnez.
J'adore le métier de journaliste, je trouve que c'est un métier formidable. Je pense qu'il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Une démocratie a besoin de médias indépendants, de médias libres, a besoin de journalistes. Effectivement, eux aussi, c'est une profession qui est très prise en tenaille par leur employeur, par le politique, et il y a plein de sujets, il y a plein d'enquêtes qui ne sont pas faites, soit parce qu'on considère qu'il n'y a pas d'intérêt du public, soit parce que ça va gêner, moi je l'ai vu dans des médias, ça va gêner un annonceur, donc on ne va pas faire, par exemple, une enquête sur la Française des Jeux, quand on sait qu'elle dépense à peu près 20 millions d'euros par an de publicité. Donc effectivement, c'est un outil, les réseaux sociaux, Internet, est un outil qui permet de retrouver une forme de liberté. L'anonymat d'ailleurs est très important parce que on peut très bien écrire le matin dans un journal et avoir un compte un peu plus anonyme. On va pouvoir donner des off. Voilà, il y a beaucoup de lanceurs d'alerte aussi qui utilisent ça comme ça. Et donc du coup, moi je l'exerce effectivement. Alors il y a c'est très compliqué. C'est fait exprès que ça soit compliqué en fait. Voilà, c'est un langage technocratique. C'est un peu comme quand vous remplissez votre feuille d'impôt ou quand vous lisez un projet de loi. Faut quand même un petit peu s'accrocher, avoir l'esprit clair. Et donc, il y a un entraînement. Et effectivement, quand j'analyse un projet de loi ou un texte, je le soumets en fait au jugement de tout à chacun. Chacun est libre de contredire, de me pointer du doigt certaines contradictions ou autres. Donc, de participer dans quelque sorte au débat. J'ai la chance sur mon compte, j'ai très peu de haters, comme on dit. J'ai pas mal de personnes qui enrichissent ou qui valident. Donc oui, je considère que ce travail-là, il est d'une certaine manière validé. Et en tout cas, les réseaux sociaux, c'est un temps long, c'est-à-dire que sur les médias, le temps est compté, et effectivement, le temps d'antenne, le temps d'attention, etc. Sur un post sur X ou sur Facebook, on peut, 2 semaines, 1 mois, 3 mois plus tard, faire voir qu'il y a encore une audience, qu'il est lu, etc. Donc, c'est petit à petit, c'est une construction intellectuelle qui s'enrichit chaque jour de postes et de réseaux, de gens qui se mettent en relation et qui viennent en discuter, oui.
Alors, vous avez décidé donc de passer la vitesse supérieure, si j'ose dire, au moment notamment de cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public qu'a mené le député UDR Charles Aloncle, et on se rend compte que l'ARCOM avait une manière de gérer le temps de parole qui était un peu surprenante, avec une liste de personnalités dont seul l'ARCOM possédait les arcanes, où on décide que Daniel Cohn-Bendit n'est pas de gauche, et donc que son temps de parole ne sera jamais décompté pour la gauche, mais qu'en revanche, Nicolas Conquer est de droite, et donc que son temps de parole, alors qu'il n'appartient à aucun parti, sera décompté du temps de parole de la droite. Et vous avez lancé tousfichés.com, enfin, quand je dis vous, vous êtes quelques-uns, et donc qui est un site, là aussi, de ce nouveau journalisme citoyen qui consiste à dire... il y a une partie de l'information qui est disponible à condition de savoir pénétrer dans un site internet, d'aller chercher le 14e onglet du 12e tiroir dissimulé au fin fond de tel centre de ressources compliqué. Et sortons l'information, mettons-la en forme. Et là aussi... je ne révèle aucun secret, je ne diffuse aucune source interdite, mais en revanche... tout ce qui est prétendument dit, et c'est un peu le travail aussi que font certains chercheurs avec les données de l'INSEE, qui sont théoriquement disponibles, mais en fait planquées, faisons en sorte de révéler avec tousfichés.com qui est véritablement fiché par l'ARCOM, qui est véritablement décompté.
Alors, les administrations ont certaines obligations de publier des données, donc ce qu'on dit open data. Donc déjà, ça a été un progrès par rapport à ces dernières années, mais elles y vont à reculons. Et comme vous dites, effectivement, c'est caché dans des sites, c'est des fichiers qui sont très peu exploitables, donc tout le monde peut aller sur le site de l'ARCOM, essayer de trouver, on va télécharger des fichiers CSV. Donc ils sont disponibles 3 mois après. Donc, comment ça se passe? C'est chaque média est obligé d'envoyer des relevés de temps de parole des personnalités qui s'invitent sur leur plateau. Peut-être qu'un jour, ça m'arrivera malheureusement. Pour faire bon élève, elles vont quasiment noter tout le monde. À la seconde près, on est le seul pays au monde à faire ça. Donc il y a deux notions, il y a le pluralisme externe, c'est est-ce que toutes les sensibilités politiques peuvent s'exprimer dans les médias. Et effectivement, dans la loi de 86 de Léotard, il y a des médias de droite, il y a des médias de gauche, et on regarde l'ensemble. Est-ce qu'il y a assez de, toute la palette est représentée. L'administration et notamment qui a étendu ses pouvoirs grâce à la jurisprudence du Conseil d'État a introduit cette notion de pluralisme interne. Donc à chaque média de faire en sorte de d'accorder un temps de parole selon certaines règles qui ne sont pas publiées. Donc ce que font les médias en fait, c'est ils font des fichiers Excel qu'ils envoient à l'ARCOM. L'ARCOM, les petites mains de l'ARCOM. L'ARCOM, c'est 50 millions d'euros par an d'argent public. Les regarde, j'imagine. Je ne suis pas allé encore dans les locaux de l'ARCOM pour voir comment ça se passe, mais les regarde et met 3 mois pour consolider ces fichiers. Moi, j'ai dirigé des entreprises. 3 mois, ça me paraît très long. Donc déjà, il y a un temps. C'est assez... D'un point de vue démocratique, ça pose problème parce que du coup, là, on a eu les chiffres du mois d'avril. On est déjà au mois de juillet. Donc bon, en tant que... Enfin voilà, si on veut surveiller le pluralisme, on pourrait se dire qu'il devrait y avoir un délai maximum d'un mois.
Je vous interromps parce qu'avec cette méthode, pendant la campagne présidentielle...
Non, bien
donc,
sûr.
En avril-mai-juin 2027, voilà. L'ARCOM nous expliquera 3 mois plus tard si oui ou non le pluralisme a été respecté.
Bien sûr.
Oui. Voilà.
Bien sûr.
Alors qu'elle pourrait très bien le faire semaine après semaine.
Bien sûr. Alors, déjà les chaînes de télé, les chaînes de radio sont pas tous dotées de la même manière. Donc, ils vont noter les noms. Il y a des fautes d'orthographe. Parfois, on attribue une personnalité à un mauvais parti, divers gauche, PS, etc. L'ARCOM est censé corriger ça, j'imagine aussi à la main, et met ses fichiers consolidés sur son site web. Ce qu'on regarde, nous, parce qu'on a repris, on a 15 mois de data, de données. Donc, il y a plein de fautes dans ces fichiers. Donc, on a dû faire des scripts, des logiciels pour corriger.
Qu'est-ce que vous présentez comme des fautes ?
Des fautes dans les noms, déjà.
Les appartenances
aux partis. Il y a des gens qui ne sont pas comptés. Chaque fichier a 5, 6, peut-être même voire 10% de fautes, déjà. Donc, quand on les retraite, on corrige tout ça. Nous, ce qu'on a fait aussi, on s'est servi du répertoire national des élus. On a fait une correspondance entre les noms qui sont dans ces fichiers ARCOM et la base des élus. Et on a créé des liens. On a compilé tout ça, on a ingéré tout ça et on a sorti des chiffres qui sont présents sur la plateforme tousfichiers.com. En essayant d'exposer la méthodologie, la façon dont l'ARCOM considère que le pluralisme doit exister. Et alors, vous l'aviez dit, personnalité politique, de ce qu'on constate, effectivement, il y a plein de personnalités politiques, médiatiques, on va dire, qui ne sont pas considérées comme personnalités politiques. Daniel Cohn-Bendit, Arnaud Montebourg, Zuckman, Jacques Attali, par exemple.
Donc, que des gens, évidemment, qui sont nationalistes.
Donc ça veut dire que c'est des personnes, quand elles s'expriment devant un micro, leur temps de parole n'est pas compté. Donc, il est illimité.
Alors que ce sont des personnes qui sont tout de même des porte-parole, des porte-étendards.
On peut même encore
d'un discours politique.
Oui, par exemple, Laurent Geoffrin, qui est le fondateur, je sais pas, dans les statuts, où est-ce qu'il est avec l'association des jeunes avec François Hollande, quand il s'exprime sur LCI, son temps de parole n'est pas compté à gauche. Voilà. Alors que, par exemple, un Philippe Devilliers sur CNews, qui n'a pas de projet politique a priori pour la France, va être compté en personnalité divers droite. Donc déjà... Le fait de compter pas compter certaines personnalités biaise le temps de parole. Voilà.
Et il n'y a pas de distinction entre service public et chaîne privée.
Alors, dans la loi, si, le service public a une obligation, d'ailleurs ça m'avait quand même étonné à l'occasion de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale de Charles Laloncle, qu'il fasse appel au Conseil d'État pour essayer de trouver une définition de ce qu'est l'impartialité et la neutralité, auquel est soumis effectivement le service public, puisque financé par l'argent de tous les Français. Les médias privés, non, ont des obligations, ont une charte qu'ils ont signée avec l'ARCOM, et ils ont une obligation d'honnêteté, donc de pas de vérifier les faits, de pas les déformer, etc. Mais pas d'impartialité. Un média a le droit d'avoir une ligne éditoriale, comme un journal. On va pas reprocher à l'Humanité.
On est super rassurés sur Radio Courtoisie d'avoir le droit d'être de droite.
Tout à fait.
On va pas reprocher à l'Humanité de pas ouvrir ses colonnes des personnalités, à des éditorialistes de droite. Et tant mieux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les aides à la presse. Et bon, les médias, c'est pareil. Les médias télé et radio. Donc déjà, il y a ce déséquilibre avec cette notion de pluralisme interne, de demander à ce que chaque média accorde un temps de parole selon des règles de l'ARCOM, encore une fois non édictées, avec qui est personnalité politique ou pas, et ça c'est quelque chose qu'on révèle sur toutsujet.com, c'est un référentiel de 1500 personnes qui n'avaient jamais été publiées, c'est pas quelque chose qu'on retrouve sur le site, c'est un lanceur d'alerte qui nous l'envoie régulièrement. Donc ça, on l'a et on le met à jour tous les mois et on voit qui rentre, qui sort.
Et ça, on est bien d'accord. Ça, c'est un référentiel constitué par l'ARCOM.
Oui.
Qui n'est pas public.
Non. En fait, les chaînes, elles peuvent déclarer tout le monde, monsieur et madame, monsieur Dupont, par exemple. Mais si l'ARCOM, quand elle reçoit les fichiers des médias, s'il ne fait pas partie du référentiel, de leur référentiel secret, va pas le compter. Mais la chaîne va le déclarer quand même.
Mais alors, c'est intéressant parce que... Est-ce que l'ARCOM travaille et se positionne uniquement sur les médias ou est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est une réalité dans le débat public, le débat politique et la liberté d'expression, est-ce que l'ARCOM se positionne aussi sur les réseaux sociaux ? Je précise, alors, typiquement, on a aujourd'hui des politiques, notamment à gauche, qui, pour toucher la jeune génération, fait appel à des influenceurs, fait appel à des... personnalité publique du monde du spectacle, du cinéma, de la chanson, de choses comme ça. Est-ce que ces personnalités-là peuvent être comptabilisées par l'ARCOM ou pas du tout, sachant qu'elles tiennent réellement un discours politique et donc qu'elles influent
Il y a deux questions.
Une campagne.
Il y a deux questions là-dessus. Effectivement, alors, pour répondre sur le périmètre de l'ARCOM, aujourd'hui, ce n'est que les chaînes de télévision et de radio. Mmh. En tant que délégué du DSA sur le territoire français, ils ont un réseau de ce qu'on appelle les trusted flaggers, donc de signaleurs de confiance qui va dénoncer, on va dire... des contenus sur les réseaux sociaux auprès des plateformes pour soit les invisibiliser, soit les supprimer, etc. Mais n'applique pas le pluralisme sur les réseaux sociaux. Ça, c'est, alors, il y a deux initiatives en cours. Il y a un projet de loi d'un député qui s'appelle Paul Midi, député Renaissance, qui considère que, et c'était le débat au moment d'ailleurs de la campagne de Sarah Knafou à Paris, que même ils vont caricaturer, ils vont dire Elon Musk favorise les contenus d'extrême droite. Donc Elon Musk a modifié son algorithme pour que les utilisateurs de X reçoivent plus de contenus d'extrême droite. Ce qui est totalement faux. Parce que déjà l'algorithme est open source et moi je l'ai étudié, hein, je l'ai téléchargé, je l'ai étudié.
Un algorithme, c'est l'utilisateur qui le travaille.
C'est l'utilisateur.
Si vous avez envie de voir des vidéos de paysages italiens, vous regardez trois vidéos de paysages italiens et votre compte Instagram vous proposera
que ça. Et l'algorithme, en fait, comme un média, L'objectif d'un algorithme, c'est de vous faire rester. Alors, on voit par exemple un TikTok qui est très addictif et qui va nous faire rester. Un X, c'est à peu près pareil. Par exemple, si vous faites un post avec un lien, il va être moins bien mis en avant par l'algorithme qu'un post qui n'a pas de lien, parce qu'il y a moins de risques que vous sortiez de la plateforme. L'algorithme de recommandation, il va vous pousser des contenus qui font réagir, qui créent de la discussion. Et donc, il y a quelques études qui arrivent tous à la même conclusion que ce qui va favoriser l'engagement va être poussé en avant et ça va être aussi bien des contenus d'extrême droite que d'extrême gauche. Et effectivement, du coup, le centre se considère que n'est pas assez représenté dans les timelines, dans les contenus qui sont poussés aux internautes. Et donc, c'est cette proposition de loi de Paul Midi qui demande à ce que le politique puisse intervenir sur les algorithmes pour pousser d'autres contenus politiques pour appliquer le pluralisme là-dessus.
Et ce qui est remarquable, c'est que donc on pousse en forçant en fait quelqu'un qui n'a pas envie d'entendre un discours de Macron ou un discours d'Édouard Philippe ou n'importe lequel des députés Renaissance ou Horizon, on va leur expliquer qu'au nom du pluralisme qu'on est obligé d'avaler la mauvaise soupe.
Alors déjà, moi je trouve que j'en vois beaucoup sur mon compte.
Oui, on en voit trop.
Mais effectivement, c'est un peu ça. C'est-à-dire, vous avez vu trois tweets de Marine Le Pen, maintenant on va vous en mettre trois de Macron. Voilà. On va vous forcer à... Non mais ils sont assez ridicules dans cette peur de perdre le contrôle du narratif en fait. Donc le pluralisme. C'est une volonté. En tout cas, on peut dire à l'heure actuelle... Leur souhait, ça serait que le pluralisme s'étende partout. On peut poser la question sur les médias libres, qui sont sur YouTube. On peut se poser d'ailleurs la question pourquoi pas sur la presse, pourquoi la presse serait exempte de ça. Donc c'est une volonté en tout cas d'étendre ce pluralisme-là. Et il y a une autre tentative qui va potentiellement accoucher d'un projet de loi à la rentrée, qui est la mission sénatoriale sur les zones grises de l'information. Donc entendons les zones libres, c'est-à-dire des zones qui ne sont pas soumises à l'ARCOM, qu'il va falloir, et c'était très intéressant parce que le sénateur Lafont qui est président de cette commission, s'étonnait que ces médias libres ne reçoivent pas de subventions. Donc en gros... Bon, en fait, si vous avez besoin d'argent, on vous en donne, mais vous serez sous le contrôle de l'ARCOM. En fait, c'est comme ça qu'on... Voilà. Et donc, on perd cette liberté, quoi.
Merci mille fois, JBG. J'en profite pour rappeler que vous écoutez Radio Courtoisie, que nous n'avons pas de publicité et que nous n'avons pas de subvention. On est totalement libre. Ça a l'air d'en énerver certains. N'hésitez pas, soutenez-nous. Soutenir.rc.fr, c'est notre site internet, ou envoyez un chèque à 61 Boulevard Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75016 Paris. Vous êtes 1,5 million à nous écouter, tout réseau confondu, 1,5 million d'auditeurs uniques, qu'il s'agisse des directs sur X, des directs sur YouTube, des ondes hertziennes, etc. Faites en sorte d'être un peu plus nombreux que les un peu moins de 20 000 qui nous soutiennent. 1 ou 2 euros pour passer l'été, ce sera absolument parfait. Voilà, soutenir.rc.fr. Et donc nous ne sommes pas du tout dans la zone grise. Nous sommes dans une zone clairement déterminée en dehors de ces subventions.
C'est ce qu'on disait même au début de l'entretien. Effectivement, cette liberté d'expression, elle est fragile. Et il faut que chacun ait bien conscience que déjà l'information a un coût. Et qu'elle dépend de ce que chacun est en capacité de financer pour aider à ce qu'elle reste indépendante.
Alors, revenons sur ces 1500 noms, donc cette liste secrète dont la CNIL n'a visiblement pas connaissance, et donc qui est constituée. Donc, les chaînes envoient leur information, l'information tombe. Si un militant de gauche qui n'est pas marqué dans la liste s'est exprimé pour critiquer la politique gouvernementale, clamer sa haine des policiers ou au contraire son amour de la Nouvelle-France est arrivé, il n'est pas comptabilisé. Et donc, l'ARCOM publie ensuite une statistique de représentativité, de neutralité et d'impartialité.
Oui. Alors, déjà, c'est, c'est, c'est assez arbitraire, puisque alors, la méthode n'est pas publique. Ils nous disent qu'ils prennent plusieurs critères en ligne de compte. La représentation, donc le nombre d'élus, des sondages, la participation au débat démocratique, enfin, je ne sais pas comment on le mesure ça, mais voilà. Du coup, ils sont à la fois juges et procureurs pour déterminer si un média respecte son obligation de pluralisme interne. Du coup, avec ces 15 mois de données qu'on a récupérées, retravaillées, comme j'expliquais avec le répertoire national des élus, avec l'analyse aussi, on analyse sur toutesfichiers.com, on récupère aussi toutes les vidéos qui sont postées sur YouTube par les médias. Donc on a 30 000 vidéos, 36 000 peut-être maintenant aujourd'hui. On récupère le nom des invités, etc., etc. Quand on regarde ça, quand on essaye de comprendre, encore une fois, leurs règles qui ne sont pas publiées, on arrive effectivement à trouver une formule. C'est comme la formule du Coca-Cola, hein. Je pense que même d'ailleurs, elle est aussi secrète. En fait, il y a les sondages où la participation des débats démocratiques compte très très peu, et on se rend compte qu'en fait, c'est les trois assemblées, c'est l'Assemblée nationale, le nombre de députés, le nombre de sénateurs, le nombre de députés européens, qui donnent le pourcentage pour chaque parti dans les médias. Donc en fait, c'est un faux pluralisme, c'est un pluralisme light, dans le sens où ce que les partis établissent, non, et on le voit très bien, moi je le vois sur X, notamment quand certains militants d'Asselineau, par exemple, expliquent qu'ils sont invisibilisés dans les médias, quand on voit que, alors sauf si on s'appelle Dominique de Villepin, mais quand on voit par exemple que Reconquête a très peu de temps d'antenne, quand on voit David Lisnard par exemple, ou d'autres, on voit qu'effectivement c'est un système qui continue d'avantager les partis historiques, donc LR, PS. On voit aussi que LFI est très surreprésenté.
Une espèce de France zombie institutionnelle, en fait.
Des partis qui font partie des meubles, on va dire, dans les médias, qui sont. Après, il y a les médias qui ont des biais, qui ont des bons clients, on va dire, donc ils vont réinviter tout le temps les mêmes. Et donc, on a essayé de regarder, et on est en ce moment sur une étude pour essayer de comprendre la mise en demeure de l'ARCOM sur CNews en mars 2025. Donc, c'est assez compliqué parce qu'il faut retrouver l'ensemble des archives. Sur une nouvelle règle qu'ils ont édictée, qui est de dire, parce que ce n'est pas dans les fichiers qu'ils donnent, il n'y a pas de distinction sur l'heure à laquelle on diffuse telle ou telle personnalité. Et donc, ils ont introduit cette notion nouvelle qui est de dire, oui, mais vous passez, en gros, c'est une caricature, les discours de Jean-Luc Mélenchon à 2h du matin, quoi, pour les insomniaques de CNews. Déjà, voilà, pour trouver le sommeil, je pense qu'il y a mieux. Mais quand on regarde mars 2025 sur CNews, par exemple, sur tout ce fichier, on se voit que le parti qui déséquilibre le pluralisme pour CNews, c'est LFI. Ils sont surreprésentés. Et on voit des médias, en fait, qui ont tellement peur du bâton de l'ARCOM qu'ils vont surreprésenter des partis en général de gauche. Alors après, si on regarde, les autres médias, l'audiovisuel public, alors France 5 et autres, vous allez pas être déçus, ça va confirmer tout ce que les téléspectateurs voient. Effectivement, il y a une grosse part qui est attribuée à la gauche, sachant qu'en plus, plusieurs personnalités ne sont pas comptées, comme j'ai expliqué, à gauche. Donc, effectivement, oui, c'est massif. Donc, ce n'est absolument pas de la neutralité, et l'ARCOM continue d'entretenir un certain flou sur leur méthode, sur leur référentiel, et on essaye de le comprendre en reprenant, oui, effectivement, sur la data. Mais après, la data, elle ment pas. Hein. Quand on l'analyse, quand je passe mes modèles, en fait, voilà, c'est des temps... Encore une fois, c'est les temps de parole qui sont fournis par l'ARCOM. Hein.
Voilà. Donc, tousfichés.com, qui est un site internet auquel on peut accéder à ce travail remarquable, ou bien le compte X de JBG, dans lequel vous rendez compte de tousfichés.com, etc. C'est le moment d'accueillir Édouard Chanot. Bonjour, Édouard Chanot.
Bonjour, Richard.
Voilà, vous dirigez le GIM depuis peu, mais ça fait longtemps que vous collaboriez à cet observatoire du journalisme et des médias. La manière dont l'ARCOM gère la neutralité et l'impartialité, vous-même, vos analyses sont sans doute congruentes avec celles de JBG.
Je crois que nous partageons un certain scepticisme à l'égard de, à la fois de l'utilité, peut-être de la légitimité et de l'efficacité de l'ARCOM, en effet. JBG évoquait à l'instant le mois de mars 2025, la censure, enfin en tout cas la mise en demeure de CNews qui s'attachait au mois de mars 2025. Julie Solvay, qui travaille pour le GIM aussi, a publié une étude très intéressante avec un long travail d'analyse de ce même mois de mars 2025. Pour savoir si d'autres chaînes auraient été plus exemplaires que CNews, en s'attachant principalement à LCI, pardon, excusez-moi, et France Info. Et on se rend compte que celles-ci n'ont pas non plus... Pardon, excusez-moi.
Non, je vous en prie.
N'ont pas non plus
J'essaie
été...
de parler
discrètement... À la régie,
entendu. Donc je disais que LCI et France Info n'ont pas non plus été très... exemplaires. Au terme de 130 heures d'études, de visionnage, etc., le GIM se rend compte que 43% du temps d'antenne des émissions principales de LCI avait trait à l'Ukraine, avec des biais manifestes, les mêmes intervenants qui revenaient en boucle, évidemment avec une vision en faveur du réarmement européen, très sceptique à l'égard des initiatives de Donald Trump pour la paix en Ukraine. Je rappelle qu'en mars 2025, il venait à peine d'être élu et essayait de mettre un terme à ce conflit tragique. Et puis, évidemment, un peu la même chose sur France Info, si ce n'est pire d'ailleurs, puisqu'il y avait encore, en effet, beaucoup moins de voix discordantes. Donc, l'ARCOM a reproché la partialité. Le terme d'ailleurs choisi, c'est le traitement univoque de l'information sur CNews, qui sans doute n'est pas exemplaire, etc. Je pense que nous pourrons nous accorder là-dessus. Mais le fait est que le pluralisme n'est pas non plus appliqué sur LCI et sur France Info.
Alors, on parle de CNews, on va en reparler, parce que voilà, donc il y a une autre mise en demeure là ces dernières semaines qui a été adressée à CNews, à qui on reproche des choses abominables. En gros, on lui reproche de critiquer le gouvernement. L'ARCOM a osé écrire en toutes lettres. Alors, vous disiez tout à l'heure, JBG, qu'on était le seul pays au monde à être capable de comptabiliser les temps de parole à la seconde près. Oui. Le fait qu'on ait une autorité de régulation des médias qui ose dire à une chaîne privée, parmi les choses qu'on vous reproche, c'est le fait de critiquer le gouvernement, c'est quelque chose aussi d'assez exceptionnel.
C'est écrit noir sur blanc.
Hein. Oui, non, bien sûr, non, je n'invente rien. Les gens croient de temps en temps que je plaisante, pas du tout.
Il faut lire la décision qui est relativement courte et qui est proprement hallucinante. Pardon, je vous interromps.
Non, mais c'est vraiment écrit noir sur blanc. Et effectivement, quand on regarde les autres médias et l'étude qui a été faite est vraiment très bien faite, quand on commence à regarder le pluralisme, effectivement, c'est déjà le prisme droite-gauche, peut-être qu'il ne veut plus dire grand-chose. Effectivement, sur chaque thématique, on va pouvoir juger si toutes les opinions ont pu s'exprimer. Alors, sur l'Ukraine, je pense que c'est très difficile d'avoir du contradictoire sans être taxé d'être un agent de l'ingérence étrangère. Mais sur plein de sujets, on voit qu'effectivement, il y a des biais. Donc, il faudrait même pas c'est-à-dire qu'ils ont mis le doigt dans un engrenage qui fait que, à regarder au plus près, on va regarder ce que sur chaque phrase, sur chaque... Quand on, par exemple, il y a un sujet aussi sur TMC, Quotidien. Quotidien va dire, on est à l'équilibre puisqu'on donne... On parle aussi du RN. Oui, mais c'est... Alors, parler du RN pour le décrédibiliser, c'est pas le même temps que de laisser le micro à un député
qui vient présenter un programme.
Donc, à partir du moment... Donc, il faut même analyser la sémantique. Il faut analyser chaque mot pour savoir si c'est un discours. Donc, même des... D'ailleurs, au sein de la... Il y avait une indiscrétion dans un article, je crois, de Politico où quelqu'un de l'ARCOM avait même dit anonymement que ça allait trop loin. Voilà. Donc je pense que même l'administration se rend compte qu'ils ont, et par l'interprétation qu'ils ont de la loi, et par la jurisprudence, et la pression qui est mise, c'est pour ça aussi que sur toutsfichés.com, on encourage les gens à faire des... On a un système qui marche très très bien, où on peut signaler en un clic une personnalité ou un programme, parce qu'en en fait, en face, l'ARCOM est sous pression d'associations comme RSF qui vont effectivement la mettre à l'amende et même contester. J'ai vu, par exemple, il y a une association qui s'appelle Quota Climat. C'est une association qui va poursuivre les personnes dans les médias qui n'adhèrent pas au narratif du réchauffement climatique. Et donc, c'est Michel Onfray qui a, sur CNews, encore une fois, émis des doutes sur est-ce que c'est l'homme qui est à l'origine. Bon, débat démocratique. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus avoir ce débat-là, même le climat. Parlons pas de l'Ukraine. Donc. Et donc, cette association... Il y a eu des saisines à l'ARCOM, faites par cette association. L'ARCOM a dit, bon, bah, en fait, ces deux phrases sur X minutes, ça ne pèse pas grand-chose. Donc, non, on ne met pas de sanctions. Et bah, ce qui se passe, c'est qu'ils vont devant le Conseil d'État pour attaquer l'ARCOM. D'ailleurs, et c'est assez cocasse, puisque cette association est financée en partie par l'ARCOM chaque année. Donc, voilà. Donc, il faut aussi... Ils sont mis dans une position où, effectivement, ils ne font plaisir à personne et ils ont la main lourde. Et on a des chaînes qui sont dans une insécurité juridique permanente avec des... rappelons qu'il y a quand même eu... On est quand même... Une démocratie, il y a quand même deux chaînes de télévision qui ont été fermées. Hein. 300-400 emplois. Enfin,
Fermées et remplacées par des chaînes qui n'ont rigoureusement aucune audience. Voilà. C'est le moment de le rappeler. Édouard Chanot, cette offensive contre CNews, cette manière dont certaines ONG sont des lanceurs d'alerte stipendiés, c'est aussi une des volontés d'Aurore Berger d'expliquer qu'elle allait choisir un certain nombre d'associations, évidemment toutes marquées à gauche, pour faire en sorte de renforcer la vigilance de l'ARCOM.
Oui, ce qui rappelle d'ailleurs les mécanismes voulus, mis en place aussi au niveau de Bruxelles avec le DSA, avec des ONG qui sont à la fois jugées parties. Je rebondirais sur les propos de JBG à l'instant en disant que cela ne profite pas évidemment au public, cela profite évidemment à l'état profond culturel qui a aussi ses relais. Il y a par exemple un projet de commission d'enquête par une députée socialiste, écologiste, pardon, j'ai oublié le nom, mais qui veut... vérifier la mise en place à partir de septembre prochain du pluralisme par l'ARCOM, tout en ayant déjà plaidé pour la censure claire et nette de CNews. Donc il y a évidemment aussi un parti, c'est le cas de le dire, qui réclame davantage d'action de la part de l'ARCOM. Ils ont leurs partisans, d'une certaine manière, qui leur réclament de faire davantage. Mais je n'ai pas répondu à votre question, Richard Decesse.
En partie, mais voilà, c'était aussi le fait de revenir sur la manière dont l'ARCOM travaille avec des associations choisies par le gouvernement.
Voilà, et où il s'agissait d'un parti, en effet.
Je parle d'Aurore Berger. Hein,
vous parliez d'Aurore Berger, donc de l'exécutif, en effet. C'est d'autant plus inquiétant, comme je le disais, que ce sont à la fois potentiellement donc des partis, d'accord, des associations, mais aussi qui deviendront des partis, qui sont accessoirement aussi des clients de l'État providence, de l'État profond médiatique, puisque on sait très bien, d'ailleurs, nous avons soutenu une étude la semaine dernière là-dessus, que les associations, en l'occurrence, sont évidemment gavées d'argent public. Nous avons, l'OVP a estimé la semaine passée, l'Observatoire des violences politiques, que la mouvance associative de gauche touchait entre 9 et 10 milliards, fourchette basse, d'argent public par an.
Ah, donc c'est le moment de rappeler l'excellente enquête effectivement menée par le GIM, mais aussi celle menée par Radio Courtoisie, Boulevard Voltaire et L'Incorrect sur justement cet argent public qui nourrit un écosystème associatif de gauche et qui est absolument pharaonique, avec en parallèle la manière dont Éric Coquerel et d'autres partis de gauche ou d'autres médias de gauche comme Libération appellent à ce qu'au contraire on assèche toute la manière dont l'État concourrait indirectement au financement des associations de droite à travers la fiscalité des dons.
Qui est même en train de se consolider au niveau européen. Donc c'est signaleur de confiance. Hein, Aurore Berger a effectivement, je ne sais plus, c'était en 2024, a fait une, justement une loi là-dessus. Alors, on va retrouver la LICRA, le CRIF, e-enfance, SOS Racisme, etc., etc.
Les associations LGBT aussi.
Voilà. Elles obtiennent aussi un rôle au niveau européen avec le DSA en surveillant la parole en ligne. D'ailleurs, il y a un débat. D'ailleurs, si on parle d'ONG, hein, j'ai parlé avec des Américains il y a pas longtemps. Je voyais qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comment on peut dire ONG alors qu'on touche des subventions publiques. Je pense qu'on a perdu aussi un peu, voilà.
Mais les éléments de langage ne sont plus les mêmes depuis bientôt 15 ans. Enfin, c'est tout le discours est devenu. Non, il n'est plus politique, il est idéologique aujourd'hui.
Ah oui, il est idéologique, ils sont financés. Et par ailleurs, ils vont sanctuariser ces financements, parce qu'il y a en préparation aussi, il y a une taxe qui va être proposée, une taxe sur les réseaux sociaux pour financer ces associations. Donc plus elles dénonceront, plus elles seront rémunérées. Mmh. On prend Quota Climat, c'est plus de 500 000 euros d'argent public. On prend RSF... voilà, on parle beaucoup d'ingérence étrangère, c'est de l'ingérence aussi étrangère quand on a Open Society qui finance
la société de Georges Soros.
Voilà. Donc oui, effectivement, bah on est face à des c'est un pouvoir par ce biais-là qui s'impose effectivement sous couvert de lutter contre la haine en ligne, pour le pluralisme, etc.
Marie-Charlotte, vous aviez une question.
Oui, est-ce que l'ARCOM travaille également sur, avec le service public, tout ce qui est émissions, feuilletons télévisés. Je pense notamment à Plus belle la vie, je pense à, je ne sais plus comment ça s'appelle, parce que Plus belle la vie, je crois, n'existe plus, Un si grand soleil ou quelque chose comme ça. Bref, tous ces feuilletons télévisés.
On est en train de se rendre compte que vous ne suivez pas les feuilletons télévisés quotidiens.
Et là, je me rends compte à quel point ma culture est mauvaise. bref, c'est donc pour les auditeurs, si vous ne voyez pas, ce sont des feuilletons télévisés qui sont en fin de journée. En général, c'est avant le journal du soir ou alors juste après, je ne sais plus. C'est avant. Merci Richard. Et donc on suit tout un tas de personnages. C'est dans une petite ville du sud de la France. C'est toujours très sympathique. Les décors sont très, les paysages et décors sont très beaux. Mais il y a un énorme discours politique derrière. On est sur France 2, on est donc sur le service public. Et si vous suivez un peu ces épisodes, vous vous rendez compte à quel point la vie des personnages est en lien avec le projet de loi en cours.
Oui, bien sûr.
Alors là, on a l'euthanasie la semaine prochaine. Bon, bah, c'est sûr. Terrible. On a un personnage auquel on est très attaché, voilà, qui vit d'atroces souffrances. Et alors vraiment, on ne peut pas imposer ça. Bon, ça tombe bien, en fait. Est-ce que... Donc, voilà, je pars un petit peu loin, mais est-ce que l'ARCOM travaille dessus? Est-ce que c'est quelque chose qui peut entrer dans ce temps de parole? Est-ce que ou pas du tout? Et est-ce que, et après donc je vous laisse répondre, et puis après Edouard Chanot, peut-être que Logim aussi s'intéresse à ce genre de programme télévisé.
Alors c'est de la télé novelas, hein. Parfois j'ai l'impression effectivement que je me retrouve dans une dictature sud-américaine. Ils ont. Alors, déjà, on devrait tous regarder, puisque contrairement à Netflix, c'est un abonnement qui est forcé. Donc, vous l'avez financé, hein, donc vous devriez le regarder. Il y a deux choses. Il faut pas oublier non plus aussi que dans les chaînes de télé, il y a une idéologie woke qui s'est installée depuis plusieurs années et qui fait que ils imposent des cahiers des charges à des producteurs. Pour l'avoir vu, hein, j'ai pas le document en main, mais pour l'avoir vu, il y a des quotas qui sont donnés sur la représentation de la société française, en tout cas telle qu'ils l'imaginent. On va même jusqu'à dire qu'il faut des personnes de couleur, il faut certaines orientations sexuelles, etc., etc. Donc ça, c'est dans la commande que fait un média à donc une France Télévisions à des sociétés de production. Sociétés de production qui, eux aussi, quand elles ont des financements, notamment de la part du CNC, mettent en avant ces biais idéologiques qui sont récompensés en commission d'attribution de ces budgets. Et par ailleurs, l'ARCOM, en discute. Il y a des entre les lignes, on va dire, dans les conventions, dans le fait de pas discriminer, va encourager ce type de biais. Effectivement, oui, et c'est très... Parfois, c'est tellement flagrant. C'est quasiment, on peut mettre, je sais pas, l'Assemblée nationale sur un poste.
Oui, la chaîne parlementaire l'après-midi, et on a le même discours.
Ça se répond, c'est très drôle. C'est très drôle. Donc oui, c'est comme une telenovelas, d'une dictature sud-américaine. C'est assez rigolo, ouais. Mais oui, mais c'est avec notre argent. Oui.
Alors, Édouard Chanot, vous-même, vous observez aussi tout ce qui n'est pas purement information.
J'observe
mais
tous les soirs sur ces émissions.
Alors, je vous avoue qu'il est temps qu'on constitue, chers amis, un club des admirateurs de Plus belle la vie.
Alors, d'ailleurs, pour rebondir sur les propos de JBG, en effet, quelquefois, il n'est pas nécessaire de forcer avec des cahiers des charges les producteurs, etc., qui font partie de cet écosystème, à la fois aussi culturel, qui évidemment, un peu comme le milieu californien hollywoodien qui nourrit Netflix, évidemment, n'a pas besoin d'être forcé pour produire du wokisme, comme on dit aujourd'hui. J'avais d'ailleurs discuté récemment avec un scénariste qui avait du mal à faire passer des scénarios beaucoup plus naturels. Je ne sais pas si je pourrais raconter les anecdotes, mais elles étaient assez amusantes sur le fait qu'on lui avait demandé un scénario et puis une publicité, et puis on lui avait demandé d'intégrer une personne de la diversité. Alors il s'était demandé comment faire, est-ce que ça va être le facteur. Alors il s'est dit, bon là, ça va être le facteur, parce que là, évidemment, la famille était trop blanche. Et puis ensuite, quand il a ajouté le facteur, ils ont demandé encore un peu plus. Et puis au bout de la troisième demande, il disait, mais attendez, je dénature complètement mon scénario. Il était pourtant content de son facteur, hein, me disait-il, comme le pire pirate dans Astérix, le pirate dans Astérix, qui bon, évidemment est noir et bon, il a été ajouté. Excusez-moi, je n'avais pas le nom, même si je dis beaucoup Astérix en ce moment. Donc évidemment, au bout de la troisième doléance, si ce n'est le terme est d'ailleurs un euphémisme, évidemment le scénariste en question avait lâché l'affaire. C'était une des plus grandes chaînes nationales françaises, clairement.
C'est le moment d'accueillir John DeLorean. Bonjour John DeLorean, vous faites partie de ces lanceurs d'alerte citoyens que nous évoquions tout à l'heure avec JBG. On va passer à une deuxième partie de l'entretien, c'est-à-dire on a beaucoup parlé de l'ARCOM, je crois qu'on en a abondamment souligné les défauts, les partis pris et les biais idéologiques. On est en ce moment en train d'assister à une offensive à la fois française et européenne contre la liberté d'expression, avec en France toutes les tentatives du gouvernement pour interdire les réseaux sociaux aux mineurs, enfin à un certain type de mineurs, moins de 15 ans, moins de 16 ans, et au niveau européen, avec Chat Control, donc que les auditeurs de Radio Courtoisy me pardonnent cet anglicisme, qui est une manière de mettre en place une surveillance de toutes les conversations, y compris privées, sans que on puisse s'opposer à ce que la structure étatique européenne passe en revue l'intégralité de ce que nous échangeons.
Tout d'abord, bonjour et merci de me donner la parole et la parole que vous donnez également aux intervenants que j'écoutais avec beaucoup d'attention, parce qu'on se rend bien compte que tout ce sujet-là n'est absolument jamais mis en avant dans les médias. Pour la petite anecdote, par exemple, je sors de chez le coiffeur de ce matin. Je sais pas si ça se voit, enfin peu importe.
J'essaye de discuter. On était en train de se regarder tout à l'heure avec un sourire satisfait. Merci.
J'essaye de parler avec. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux, d'avoir énormément d'interactions avec les gens, mais aussi à l'extérieur, que ça soit le boucher, à la caisse, on emmène les enfants à la crèche, etc. On discute avec eux et il y a absolument personne qui est au courant de ça. Déjà, il y avait par exemple, je fais quand même un gros parallèle, mais sur la loi sur l'euthanasie, c'est quelque chose qui a pas du tout été couvert par les médias comme ça devrait être fait. Et également sur ce sujet-là, et en parlant de Chat Control, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une espèce de motion d'accélération pour remettre le texte dans la balance et dans le vote, et ça a été voté hier.
Au
Parlement européen. Et ce qui s'est passé hier, juste pour vous donner la logique et pour moi dans quel sens il y a véritablement un problème, c'est qu'on a une motion de censure qui est votée à 314 pour et 276 contre. On a le vote d'accélération qui était à 331 pour, 304 contre. Et en fait, on se base sur ce vote-là de, je sais pas, 20 voix de différence, etc., qui va s'appliquer à tous les pays, sur les conversations privées de tout le monde. Alors, ils ont essayé de rattraper la chose en disant on a fait un petit amendement que les messageries cryptées ne seraient pas concernées, mais en gros c'est de les autres personnes peuvent me confirmer ou non, mais en gros c'est de scanner les messages et la présomption d'innocence n'est plus existante pour on parle de ce cas précis pour les Français. Donc, c'est-à-dire qu'on peut dire que n'importe qui peut devenir un délinquant. Les données vont pouvoir être scannées justement par les GAFAM qui critiquent le camp justement qui met en place cette mesure critique les GAFAM et va leur donner le droit en fait de pouvoir récupérer ces données et eux aussi auraient un droit de regard par la suite sur ce qui se passe dans les conversations privées. Donc là, on est clairement dans l'ingérence totale de l'État, de l'Union européenne, une entité supranationale qui prend décision sur les Français de comment on va regarder leurs conversations personnelles. Et je trouve que c'est dramatique. Et c'est un sujet qu'on a alerté avec énormément de monde depuis, même durant, ça s'est vraiment mis au maximum durant la période Covid, où il y avait justement le pass sanitaire. Et moi, ce que j'aimerais, porter l'attention des gens justement sur ce sujet-là, c'est les mêmes qui faisaient le pass sanitaire, qui mettent en place ces mêmes choses, et il n'y a pas de droit de regard, il n'y a pas de relais dans les médias, et au final, est-ce que vous avez vu un seul débat sur une grosse chaîne de télé où les gens qui sont pour, les gens qui sont contre ? On a juste eu Emmanuel Macron qui s'est promené dans toute la France avec des rédactions en disant que c'était très bien, et tout le monde disait amen à ce qu'il disait. On a eu, vous avez parlé tout à l'heure, de l'authentification, idem. Où est le grand débat? À chaque fois qu'il y a les vœux de fin d'année, il nous dit qu'il va faire des référendums. Il n'y en a pas eu. On n'a pas voix au chapitre. Voilà. Et moi, pour finir, moi, par exemple, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir la parole, c'est mon travail qui a été fait depuis des années et des années sur les réseaux sociaux, de mettre en avant ce que je faisais. Je n'aurais jamais pu le faire en continuant une vie normale. Et je veux dire, pour les Français, c'est la même chose. Je veux dire, vous devez travailler, payer vos impôts, payer votre crédit, mettre... ce qu'il faut dans le frigo pour votre famille, vous ne pouvez pas prendre position publiquement sur des sujets parce qu'on appuie sur un bouton pour des idées d'une partie de l'échiquier politique, on peut vous faire tomber et justement vous faire perdre votre travail. Et pareil, là, il restait les réseaux sociaux, les gens utilisent l'anonymat, les gens qui alertent utilisent l'anonymat justement pour dénoncer des choses. Demain, ce ne sera plus possible, que ça soit sur les réseaux sociaux ou même par les conversations privées. Et j'en termine véritablement là-dessus. Demain, imaginez par exemple que vous voulez refaire les gilets jaunes. Alors évidemment, plein de gens disent qu'ils ne veulent plus le faire par rapport à ce qui s'est passé, je l'entends très bien, mais mettez-vous deux minutes dans cette position où demain, par exemple pour le carburant, les gens veulent refaire quelque chose contre les gilets jaunes. Il y aura accès aux messageries privées, il y a accès directement à l'authentification pour savoir qui sont les personnes derrière les comptes. Et en fait, si vous êtes face à un État autoritaire avec des bouffées délirantes totalitaires, il peut couper net justement toute tentative de manifestation des gens populaires par rapport à une décision. Et c'est là le véritable danger qu'on ne vous dit pas. On instrumentalise les enfants pour arrêter tout ça.
Je rebondis sur ce que vous avez dit sur la... Ils nous promettent le référendum et on ne l'a jamais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait se réjouir d'avoir un référendum lorsqu'on voit à quel point le discours politique est verrouillé, voire orienté? Est-ce que un référendum, je prends l'exemple de l'euthanasie, demain on nous pose un référendum, la question ne serait pas êtes-vous pour ou contre l'euthanasie, la question serait êtes-vous pour ou contre la souffrance des plus fragiles. Personne n'est pour la souffrance des plus fragiles. Donc dans ce cas, tout le monde est pour l'euthanasie. Aujourd'hui, il y a un tel discours politique qui est orienté, et les médias de la bien-pensance, si je puis dire, y contribuent largement, que même ça nous serait volé, en fin de compte.
Voulez-vous que vos enfants soient exposés à des contenus pédopornographiques?
Exactement. Non, mais c'est aujourd'hui, ce sont de vrais sujets.
Des sophismes, des raccourcis, et vous avez totalement raison là-dessus. Alors, les deux sujets sont différents, mais la nature de la propagande pour les mettre en place est la même. C'est la même nature. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que, enfin, moi, ce que je pense, c'est qu'à partir du moment où vous obligez à avoir un référendum, vous avez l'obligation de faire un débat. Et vous allez avoir forcément des gens qui vont apporter les arguments. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est ça qui les terrorise. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a absolument pas ces sujets à la télé. Que vous parlez de l'euthanasie, je veux prendre les deux exemples. Je vous réponds très rapidement. Sur l'euthanasie, comme vous l'avez dit, les sondages sont orientés, que vous avez quelqu'un qui est à l'article de la mort. Est-ce que vous voulez abréger ses souffrances? Évidemment que tout le monde va dire oui. Mais est-ce que tout le monde sait comment fonctionne au niveau des soins palliatifs, en termes même d'idéologie, de bien expliquer que le fait de donner la mort, au final, c'est un abandon de la personne et qu'il n'y a pas d'accompagnement, etc. Et on ne permet pas aux gens de le dire, ça, de leur expliquer. Et même au niveau de la loi, il y a énormément de garde-fous qui ne sont pas là. tous les amendements qui ont été faits par les personnes opposées justement à cette loi n'ont pas été entendus. Et là, je regardais, j'ai posté juste avant de rentrer dans votre émission, que par exemple, même Agnès Buzyn reculait dessus, alors que c'était quelqu'un qui était, je pense, pour cette solution à la base. Donc il y a un véritable problème. Les réseaux sociaux, c'est pareil. C'est d'expliquer que, évidemment, il faut protéger les enfants, mais à partir du moment où vous appliquez des réductions de liberté sur toute la population finalement et que les cartes d'identité vont se retrouver dans les mains des grandes entreprises, de l'État, qu'en même temps vous avez les fuites, que il y a des élections présidentielles aussi, qui peu importe qui aura le pouvoir, il aura justement, c'est la boîte de Pandore. Après, vous avez accès à tous les gens qui s'expriment, vous faites quelques amendements et vous regardez un lanceur d'alerte ou quelqu'un qui est un leader d'opinion politique et de l'attaquer directement. Donc à partir du moment où vous avez des gens qui sont capables d'expliquer véritablement ce qui se passe, quels sont les tenants et les aboutissants de telle ou telle loi, l'idéologie derrière par rapport à la communication qui est faite, là, je pense qu'on a une liberté de conscience et une véritable liberté de choix des Français de pouvoir dire si une chose est bien ou non. Et encore une fois, moi, je m'interroge sur le fait que les médias ne font absolument pas leur travail de relais et qu'il y a déjà un biais qui est établi et au final, on perd le sens des choses. Et les gens vont s'en rendre compte, comme d'habitude, que quand ce sera trop tard et que ils ne pourront plus s'exprimer et demain il y aura des problèmes comme on a déjà eu en France, vous ne pourrez pas les dénoncer ou mettre quelque chose en place pour avoir un contre-pouvoir finalement.